Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Les vacances dans le monde agricole ne sont pas toujours faciles à prendre, on le sait bien, surtout en élevage. Mais elles sont plus fréquentes désormais et plus assumées aux yeux de tous qu'il y a quelques années.
C'est vrai aussi.
Et aujourd'hui, tu nous parles, en cette fin de période scolaire, non pas de notre bocage, alors là c'est exceptionnel, mais du plateau de 1000 vaches. Voilà. Carte postale donc de la famille Stradin, qui écoute régulièrement à travers champs, qui a des vaches laitières et qui s'y est rendu pour respirer le temps d'une semaine. Ont-ils bien respiré?
Ils sont revenus avec le sourire en tous les cas, donc ça c'était plutôt cool.
Ouais.
Carte postale alors, dans notre pays, hein, au sens unité de territoire, hein, comme l'est notre pays du bocage ou le pays gâtinais. Donc c'est d'ailleurs important de comprendre que le mot paysan, hein, ça signifie gens du pays. Donc un paysan est bien un acteur territorial, hein, pour sa production. Il est aussi animateur du paysage, hein, autre mot très intéressant et plus moderne dans notre histoire. Donc à eux trois, ils forment un trio indissociable, à mon sens en tout cas, pays, paysan et paysage. Et en ce sens, un paysan n'est absolument pas connoté de manière péjorative.
Le pays du plateau de 1000 vaches, avec un nom comme cela, il y a forcément des paysans. Avec
et des vaches.
Des vaches.
Bon, il y en a ou il y en a eu, en tous les cas. Mais le nom de ce plateau, hein, qui culmine à 1000 mètres, hein, dans le Limousin, est hérité en fait de ses particularités géographiques. 1000 hein. Vaches signifie en fait 1000 sources. Donc c'est un pays où l'eau, hein, sous forme de sources, de ruisseaux, de rivières ou de lacs, hein, avec le plus célèbre Vassivière, est omniprésente. Donc il y a la Vienne, la Corrèze et la Creuse, hein, qui sont trois rivières pour trois noms de départements qui constituent ce plateau de 1000 vaches, le plateau de 1000 sources du coup.
Donc le plateau de 1000 vaches est un pays de sources et d'eau, mais qu'en est-il de l'élevage?
L'élevage décline, hein, visiblement, et Alexis, hein, donc le petit fiston, fidèle auditeur, hein, je lui fais un coucou d'ailleurs, Alexis, sa grande sœur, hein, Camille, qu'il faut remarquer que malheureusement ils ne pourront pas visiter de ferme et discuter avec les agriculteurs comme ils le font habituellement, puisqu'autour de Vassivière, hein, le paysage est essentiellement constitué de forêts, de tourbières et de landes. Plateau de 1000 sources tient bien son nom de là. Donc les vaches ou les moutons se font plus rares et ce sont plus d'exploitations forestières qui prédominent.
La sylviculture donc.
L'exploitation forestière, hein, qui arrive à maturité sur le plateau en fait, puisque des résineux, donc Douglas et Picea essentiellement, ont été plantés après la guerre entre 1945 et 1980. Donc ça fait à peu près 50 ans et les coupes de bois sont en cours. Donc le pays de 1000 vaches a été traumatisé avec les tempêtes de 1982, pour ceux qui s'en souviennent, et 1999, hein, plus récent dans notre histoire. L'exploitation forestière, elle, s'est trouvée transformée, industrialisée, hein, avec un marché du bois de moins de 60 cm de diamètre qui s'est développé. Les bois sinistrés, eux, liés aux tempêtes, ont également été valorisés, et souvent à l'export, hein, grâce à une forte mécanisation des chantiers. Le plateau, lui, est passé d'une exploitation forestière de réserve, de complément d'activité, avec peu de pression commerciale, du coup, avec une activité industrielle à partir des années 80-90. Donc c'est en fait à partir de ce moment-là que ce n'est pas la forêt qui décidait ce qu'elle avait à donner, mais le marché qui venait acheter ce dont il avait besoin. Donc on note, hein, dans des articles d'archives que j'ai pu lire pour préparer cette chronique, qu'à l'époque, avec le tournant industriel des années 1980, la saison de la cueillette, hein, des champignons qui représentait un véritable revenu, en fait, elle seule mettait entre parenthèses le fonctionnement de l'économie forestière.
Il y a des tensions dans ce pays liées à la sylviculture?
Oui, ça crée des tensions pour la sylviculture de type industriel, en fait, hein, avec des plantations en futaie, de résineux à exploitation rapide, hein, pour ce fameux marché du bois de moins 60 cm. Donc les opposants à cette exploitation expliquent que ces parcelles forestières n'ont que très peu de biodiversité, hein, et que la politique des coupes rases, donc on coupe tous les bois, ras le tronc, n'a pas de sens, hein, d'un point de vue écologique non plus. Parce qu'il y a aussi l'aspect esthétique, hein, de voir des pans entiers du plateau rasés avant d'être replantés. Donc l'impression est forte, hein, même s'il n'y a pas plus de coupes rases qu'auparavant, en termes de densité. Et la forêt, elle continue de gagner du terrain en France, il faut le savoir quand même. Donc tout ceci est réglementé, forcément, et avec obligation de replanter. En fait, ces tensions-là, par rapport à notre histoire à nous, on peut dire que ce sont les mêmes tensions que chez nous, entre une agriculture productive et une agriculture qu'on qualifie aujourd'hui de paysanne.
Et pour revenir à nos moutons ou à nos vaches plutôt.
Ben, les troupeaux ont fortement diminué. Voilà, les parcours pastoraux ont été abandonnés, et ça, ça a laissé place à des forêts qui, elles, en opposition aux autres, sont riches en biodiversité. Donc les troupeaux de moutons étaient majoritaires pour entretenir et valoriser cet espace difficile, vallonné et humide. Donc avec l'évolution agricole, hein, dont on parle souvent ici, les aides délivrées aux seuls éleveurs qui possédaient au moins 50 brebis, donc les petits éleveurs ont disparu. Et le cheptel de moutons s'est peu à peu amoindri. Donc les vaches limousines, essentiellement, hein, ont pris le relais, mais ne peuvent occuper et entretenir de façon, je dirais, comparable ce territoire.
C'est donc une zone d'élevage finalement assez pauvre.
Oui, pour l'élevage des animaux. Ça, c'est clair que c'est pas la première région. Le plateau est difficile.
Pierre Bergougnoux, écrivain du Cru Corrézien, hein, dans un peu de bleu dans le paysage, écrivait On ne se risque pas impunément dans le plateau de Millevaches. On a buté sur des pentes, cherché le passage dans des encaissements, franchi des ponts sur l'eau coureuse, avant de retomber sur l'épais sourcil des sapins à l'horizon.
Sylvain Tesson, hein, lui qui, dans Le Chemin Noir, paru chez Gallimard en 2016, lui s'intéressait à l'hyper-ruralité dans ce livre-là, et aux zones dépeuplées, ou sans accès à l'Internet notamment. Donc il est passé par le plateau des Millevaches, même si au goût des habitants, il y est passé trop vite.
Il marche beaucoup cet homme.
Il marche beaucoup trop vite en tous les cas, mais il n'a pas vu la vie rurale qui y régnait lorsqu'il y est passé. Puisque le plateau, hein, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il s'appuie sur le tourisme essentiellement.
Touristique avec de jolies randos à travers champs peut-être alors.
Un peu partout, à travers champs, à travers champs, à travers forêts et puis les cours d'eau, oui forcément. Donc le plateau de Millevaches, c'est aussi un parc naturel régional PNR, créé en 2004 sur 113 communes. Donc ce PNR, hein, il préserve les milieux naturels liés à la forte présence d'eau, développe le tourisme responsable, valorise le patrimoine et transmet l'histoire occitane du plateau. Donc en fait, avec le lac de Vassivière comme point d'eau, hein, au nord-ouest du plateau, ce sont des activités à mobilité douce et très à la mode qui vous seront donc proposées. Notre famille d'envoyés spéciaux du jour, hein, la famille Fradin, disait aussi qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Donc merci à eux pour leur clin d'œil. Et alors, au lac de Vassivière, vous aurez du calme, des poissons, des randos à vélo ou à pied pour vous, chers vacanciers.
Et ce PNR permet aussi de s'intéresser à notre pays, Ludo.
Exactement. Donc nous avons chez nous, bien connu, hein, le Marais de Poitevin, qui est déjà PNR, qui a été créé en 1979. Sachant que il a quand même eu une histoire assez compliquée. Alors ça, il l'a perdu en 1996, puisque le PNR ne remplissait pas ses objectifs de préservation de la biodiversité notamment. Il l'a on lui a réattribué ce label en 2014. Voilà pour la petite parenthèse. Donc le Marais Poitevin en PNR déjà, et le Pays de Gâtine espère lui, hein, pouvoir le créer, hein, son PNR, à l'horizon 2026. Le temps de construire, hein, et de faire valider le projet. Donc on croise les doigts pour le Pays de Gâtine.
Et on souhaite une bonne reprise d'école pour les enfants et le petit Alexis.
Et voilà, Alexis, Camille,
et ça
Camille qui a déjà recommencé parce qu'elle est un peu plus loin dans le Maine-et-Loire.
Merci Ludo.
Bonne journée, ciao.